أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. صدق الله العظيم.
السلام عليكم ورحمة الله. طبيعي. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد. Le thème qui vous a été proposé aujourd'hui, c'est le mariage entre tradition et religion. C'est bien ça ? Donc le mariage entre tradition et religion, avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a une introduction qui est très importante. C'est quelle est la position de la religion, quelle est la position du fiqh, du droit islamique, par rapport aux traditions que chaque peuple, chaque communauté peut avoir. On a des traditions. On est éduqué dans des traditions et des coutumes différentes en fonction de notre ethnie, en fonction de notre origine, en fonction de nos pays, en fonction de nos pays d'origine, en fonction de l'endroit où on vit, on a des coutumes et des traditions qui sont différentes d'un individu à l'autre, d'une famille à l'autre, d'une communauté, entre guillemets, une communauté ethnique à une autre. Quelle est la position de la religion ? Face aux coutumes, est-ce qu'on a le droit d'appliquer nos coutumes ? Ou alors, on n'a pas le droit ? Ou la question elle est plus compliquée ? En réalité, la question elle est plus compliquée. La religion ne rejette pas les coutumes. La religion nous demande de vérifier si cette coutume va à l'encontre des enseignements religieux. Si c'est le cas, si ces coutumes que nous avons ou ces traditions que nous avons vont à l'encontre de la religion, eh bien ces coutumes, elles sont interdites par l'islam, parce qu'elles contribuent à quelque chose d'interdit. Mais si ces coutumes, au contraire, vont dans le sens de la religion, alors à ce moment-là, elles sont recommandées. Et certains juristes, certains fuqaha dans l'islam, vont même jusqu'à dire que c'est un dalil, c'est une preuve dans la religion, en plus du Coran, de la sunna, du consensus entre les savants, ça peut être un dalil, quand il vient dans le même objectif que la religion. Ensuite, il y a toutes les coutumes et les traditions qui ne contribuent ni au halal, ni à ce qu'Allah Azza wa Jalla a recommandé, plutôt, ni à ce qu'Allah Azza wa Jalla a interdit. Ces coutumes-là et ces traditions-là sont tolérées et elles sont permises. Donc lorsqu'on donne ce thème, le mariage entre tradition et religion, il faut tout d'abord qu'on arrive à faire la différence. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se sont mélangées dans nos mariages. Des choses que nous faisons par religion, parce qu'Allah Azza wa Jalla nous a demandé de le faire comme ça, et des choses que nous faisons parce que nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres, dans nos pays d'origine, on le fait de cette manière-là. Et il faut donc tout d'abord, pour essayer d'y voir clair, essayer de se rappeler de comment on célèbre nos mariages, et faire la différence entre ce qui est religieux, purement religieux, et ce qui est coutume et tradition. Et ce sujet, fil haqiqa, est très important lorsqu'on veut se marier. Pourquoi ? Parce que le mariage en islam est plus qu'une union entre deux individus. Le mariage en islam, c'est un acte d'adoration. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ دِينِ » Quand l'individu se marie, c'est qu'il a complété la moitié de sa religion. « فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي مَا بَقِيَ » Qu'il craigne donc son Seigneur dans l'autre moitié, dans ce qui reste. Cela prouve que le mariage dans l'islam, c'est un acte d'adoration. Et puisque c'est purement religieux le mariage, on a absolument besoin de savoir quelle est la part de coutume dans le mariage que je célèbre, et surtout, est-ce que ces coutumes-là sont autorisées et tolérées par ma religion ou pas. Parce que quand je me marie, quand je célèbre mon mariage, je suis en train d'accomplir un acte d'adoration. Je suis en train, selon les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en train de remplir la première moitié de ma religion. Alors quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui se marie, c'est qu'il a complété la première moitié de sa religion, qu'il craigne donc Allah dans la deuxième moitié, il parle de qui ? Il parle de celui qui a complété la première moitié de sa religion, c'est-à-dire qui s'est marié en fonction des préceptes et des enseignements religieux. Mais celui qui a tout fait à l'envers, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle pas de lui dans ce hadith. Celui qui a tout fait à l'envers, qui s'est marié n'importe comment, selon sa raison, selon sa passion, celui-là, il n'a pas du tout complété la première moitié de sa religion. Puisqu'il l'a mal fait déjà. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand l'individu se marie, sous-entendu, quand l'individu se marie selon le livre d'Allah Azza wa Jal et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout d'abord, on va parler de la sunna. La sunna, c'est-à-dire comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de se marier et comment les compagnons radiyallahu anhum avaient l'habitude de se marier. On va voir quand on va parler de ça que d'une certaine manière, ça n'a pratiquement plus beaucoup à voir avec les mariages que l'on célèbre aujourd'hui. Cependant, en terminant, on verra inshallah ce qu'il faut absolument éviter dans nos mariages et ce qu'on peut laisser dans les mariages qu'on célèbre aujourd'hui. Premièrement, la célébration de la fête, ou plutôt le repas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans un hadith, « La budda lil urs min walima » Il faut absolument que le mariage soit accompagné d'un repas. C'est-à-dire un repas qui soit organisé pour des proches, pour la famille, etc. On invite des gens, donc ça on le fait. On organise un repas pour célébrer ce mariage. Le professeur Hassan me disait qu'il faut absolument que le mariage soit accompagné d'un repas. Quel est l'objectif de ce repas ? C'est surtout l'objectif de la célébration du mariage en islam. Son premier objectif, c'est surtout de mettre au courant le plus de monde possible que telle personne s'est mariée. Parce que le professeur Hassan a recommandé aux jeunes qui se marient de d'informer au grand jour, de mettre au grand jour le mariage. Donc bien sûr, attention, quand quelqu'un il veut se marier, il ne va pas commencer à dire à tout le monde, il va prendre un micro, moi je crois que je vais me marier, etc. Quoi, c'est encore dans le doute. Non. Il peut laisser cesser sa vie privée, il peut le cacher, il peut décider de ne pas le dire tout de suite. Voilà qu'une quand il décide de célébrer son mariage, et c'est justement ça l'objectif du mariage, c'est de mettre au courant le plus de personnes possible. Pour que les gens sachent que cette personne est mariée. Pour pas que Shaitan, par exemple, il vienne faire répandre des mauvais soupçons entre les membres de la communauté de l'islam. Tiens lui, mashallah, c'est un frère qui est fidèle à la mosquée, etc., etc. Et je l'ai vu il n'y a pas longtemps, il était avec une femme, il n'y avait pas de troisième personne, il était dans la rue avec une femme. Et s'il s'est marié en cachette et qu'il l'a dit à personne, donc les gens ils vont avoir des soupçons, subhanallah, pourtant il va à la mosquée. C'est aussi dans cet objectif-là que la célébration du mariage doit se faire au grand jour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire organiser le repas et les compagnons également 3 jours après la nuit de noces. 3 jours après la nuit de noces. C'est-à-dire qu'il y avait d'abord la nuit de noces, le marié va ramener sa femme, il n'y avait pas forcément de cortège, on va revenir sur les cortèges tout à l'heure, Inch'Allah. Il va ramener sa femme, donc le mariage est conclu comme l'islam le veut, avec des témoins, etc. La dot, elle est donnée. Il y a la nuit de noces, donc l'homme commence à vivre sa première nuit avec sa femme. Il y a la nuit de noces et les compagnons, radiallahu anhu, le professeur Sam avait l'habitude d'organiser le repas 3 jours après la nuit de noces. Aujourd'hui, nous, on le fait le jour même. Il y a la fête et le soir même, c'est la nuit de noces, généralement, dans nos coutumes. On va revenir sur ça tout à l'heure, Inch'Allah. Ici, il y a quelque chose qui est très important. Quand on se marie, bien entendu, la première question que chaque jeune se pose, c'est comment sa nuit de noces va-t-elle, comment elle va se passer sa nuit de noces? Comment il va aller vers son épouse cette nuit-là? Alors, en fonction des jeunes, on va avoir une réponse différente. Il y a certains jeunes qui auront entendu dire certaines choses, donc ils vont appliquer ces choses-là, sans savoir si ces choses sont vraies ou pas. Certains, ils ont vu des films, etc., ils ont vu comment ça se passe dans les films, donc ils vont faire selon les films. D'autres, ils parlent entre eux, entre jeunes, et puis voilà. Et personne ne se demande comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé d'agir cette nuit-là, et comment les compagnons radiallahu anhum avaient l'habitude d'agir cette nuit-là. Personne ne se pose cette question. Et c'est pourtant cette question-là qu'il faut se poser, puisque comme on l'a dit, le mariage est un acte d'adoration. Et même, je vais aller plus loin, les rapports intimes entre les jeunes mariés sont un acte d'adoration. Et si ça vous étonne, eh bien les compagnons radiallahu anhum étaient étonnés de la même manière que vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit quand ils ont été étonnés, quand quelqu'un d'entre vous va vers une femme et qu'il a des rapports intimes avec elle, dans l'illicite, dans le haram, est-ce qu'il devra rendre des comptes pour ça? Est-ce qu'il a des sayyi'ats pour ça? Les compagnons ont répondu, bien sûr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, bien pourquoi ça vous étonne que lorsqu'il le fait dans le halal, pourquoi il n'aurait pas de hasanat? Taïm. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout d'abord, il nous a enseigné, lorsqu'on rentre auprès de son épouse, la nuit de noces, il nous a appris, dans son action, en tout cas, comment il l'a fait avec Aïcha radiallahu anha, il nous a enseigné que, certes, on peut être timide, mais la femme, généralement, est beaucoup plus timide que l'homme. Donc l'homme doit vaincre sa timidité et mettre en confiance son épouse. Comment il va la mettre en confiance? C'est tout d'abord en donnant des paroles douces. Donc il rentre, il salue son épouse, il lui propose quelque chose à boire ou à manger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on nous raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est rentré la nuit de noces auprès de Aïcha radiallahu anha, il lui a proposé un verre de lait. Et Aïcha radiallahu anha était tellement timide, avait tellement honte cette nuit-là qu'elle n'osait même pas lever la tête ni bouger la main pour prendre le verre. Elle, Elle était immobilisée, paralysée de timidité. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a proposé ce verre et elle était paralysée par sa timidité. Son ami qui avait préparé Aïcha radiallahu anha, qui l'avait fait belle pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, prends, en la réprimandant. Elle lui a dit, mais prends du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam te propose un verre de lait, tu ne prends pas, prends. À ce moment-là, Aïcha radiallahu anha a pris le verre et elle a bu. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a d'abord bu dans ce verre et ensuite il a proposé à Aïcha radiallahu anha. Donc après que son ami ait insisté, Aïcha radiallahu anha a bu de ce verre et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Aïcha radiallahu anha, donne-en à ton ami, propose-en à ton ami. Mais qu'est-ce qu'elle a dit son ami? Elle a dit non au messager d'Allah, reprends-toi le verre et rebois un petit peu dedans et ensuite donne-le-moi toi de ta main. Pourquoi? Parce qu'elle cherchait à avoir la baraka du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bu dans ce verre-là, et on nous raconte que l'ami de Aïcha, Asma, radiallahu anha, a posé le verre, le récipient dans lequel il y avait le lait, entre ses genoux, et elle le tournait, et elle regardait pour essayer de trouver là où ça brillait, l'endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé ses lèvres, et il a vu, elle a trouvé l'endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé ses lèvres, elle a pris le verre et elle a bu à cet endroit-là. Pourquoi ? Encore une fois, parce qu'elle cherchait la baraka du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le prophète alayhi salatu wa sallam a pris sa main droite, il l'a mis sur le front de Aïcha radiallahu anha et il a fait une dua. Donc ici aussi, c'est recommandé de faire la même chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, de mettre sa main droite sur le front de son épouse la nuit de noces et dire cette dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Bien entendu, il est mieux d'en parler avant, surtout si la jeune épouse n'est pas au courant. Si elle n'est pas au courant que c'est la sunna, etc., c'est bien d'expliquer. Et d'ailleurs, c'est peut-être aussi une façon de mettre en confiance cette jeune épouse, d'expliquer voilà comment ça s'est passé cette nuit-là avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc. Comme ça, tout ce qui va suivre, elle va s'y attendre. Mais si elle n'est pas au courant, c'est possible qu'elle ne soit pas au courant. Si elle n'est pas au courant, la personne vient lui pose la main sur le front et commence à dire des choses. Qu'est-ce qu'il veut? Ashkay. Donc, et le prophète Rasoul, quand il a posé sa main droite sur son front, il a dit Allahumma inni as'aluka min khayriha wa khayri ma jabaltaha alayhi wa a'udhuka min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi. Et il y a d'autres versions de cette dua. Celle que j'ai retenue, c'est celle-là. Ala kulli hal, cette dua, elle veut dire quoi? Elle veut dire oh mon Seigneur, je te demande le bien qu'il y a en elle et le bien dans lequel elle a été créée. Et je te demande protection contre le mal qu'il y a en elle et le mal dans lequel elle a été créée. Un savant disait ici, il disait si la femme comprend la dua, elle comprend bien l'arabe littéraire, dites-le dans votre tête. Parce que si elle a une ceinture noire de karaté, vous êtes foutu. Je te demande protection contre le mal qu'il y a en moi. Quel mal il y a en moi? On vient de se voir, il y a déjà un mal en moi. Tu commences déjà bien. Donc le prophète sallam avait l'habitude de faire cette dua. Et ensuite, il nous a également recommandé de prier deux unités de prière avec son épouse. Donc l'homme est devant et la femme est derrière. Certains pensent que quand on prie tout seul avec sa femme, la femme elle est juste à côté. Non. Yani l'homme est devant et la femme est derrière. Et donc après cette prière, il est également recommandé de faire d'autres invocations. On va pas revenir sur toutes ces invocations. Et ensuite, comment se passe la nuit de noces et comment se passent les rapports intimes entre les deux jeunes époux? Il est fortement recommandé, bien entendu, de commencer par des préliminaires. Et avant de commencer par les préliminaires, il y a une dua à dire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné une dua avant ce rapport intime-là, la nuit de noces, ou n'importe quel rapport intime qu'on a avec son épouse. Il faut absolument dire cette dua avant de commencer. Allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytana ma razaqtan. J'entends, il y en a chuchotant même, il y en a, ils la connaissent, ajif. Masha'Allah, ala kulli hal. Allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytana ma razaqtan. Oh mon Dieu, protège-nous du diable et protège ce que tu nous donneras de ce rapport, protège-le du diable. Protège ce qui sortira de ce rapport du diable. Ici, c'est une dua absolument à connaître. Parmi toutes les duas qu'on doit connaître dans notre vie. Parce que cette dua, elle empêche le diable non seulement d'être présent, mais de participer. Lorsqu'on mange, pourquoi on dit bismillah? Ça empêche le diable de participer à notre repas. Lorsqu'on a des rapports avec son épouse, pourquoi on dit cette dua? Ça empêche le shaitan, le diable, de participer. Il y a un cheikh qui disait, il se plaignait de la situation de la communauté musulmane d'aujourd'hui. Et il disait, qui réellement aujourd'hui dans sa vie ressemble au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qui vraiment dit les duas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à chaque événement? Qui vraiment, quand il doit dire une dua, l'a dit? Il dit aujourd'hui, notre communauté, plus personne n'y connaît plus aucune dua dans n'importe quel événement, sauf deux duas. Là, on les connaît par cœur. Il a cité celle-ci, Allahumma janibna shaytan wa janibi shaytan ma razaqtana. Et il a dit, et l'autre dua que tout le monde connaît aussi, c'est Bismillah, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa zidna khayran minhu. Les duas qu'on dit avant de manger. Il dit, à part ces deux duas-là, mashallah, Allah al-musta'an, on ne connaît plus aucune autre dua. Ala kulli hal. Donc, on a dit, voilà comment doit se passer la nuit de noces. Et donc, il est fortement recommandé d'avoir des préliminaires avant, surtout la nuit de noces. Pourquoi? Parce que bien entendu, généralement, quand ça se fait dans l'islam, les deux jeunes époux, normalement, ne se sont jamais vus de manière isolée. Donc il reste une certaine gêne entre ces deux personnes. Et pour éviter à ce que cette gêne, elle empêche le bon fonctionnement entre les deux époux, il est fortement recommandé qu'il y ait des préliminaires. Ala kulli hal, ça c'est ce qui concerne la sunna, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam agissait, ce qu'il nous a conseillé de faire. Il nous a également fortement recommandé de féliciter les mariés. Il est fortement recommandé de féliciter les mariés. Comment on félicite les mariés? Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khayr. Ça c'est la façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Maintenant, on va venir aux coutumes dans la célébration de nos mariages. Puisqu'on vient de parler de la façon de féliciter, parlons de la façon de féliciter dans nos coutumes. Dans nos coutumes, on a plusieurs façons de féliciter. Ou bien en français, on dit félicitations. Ou bien en darija, mbrok, Allah ikmal bil khair, Allah ceci, etc., etc. Toutes les façons de féliciter, que ce soit en français, en arabe, en darija, en n'importe quelle langue, elles sont autorisées. Tant qu'il y a du bien dedans. Tant qu'on demande du bien dedans. Mais il est fortement recommandé de ne pas oublier la façon que le professeur Anselme avait l'habitude d'utiliser, la formule que le professeur Anselme avait l'habitude d'utiliser, Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khayr. Ensuite, la célébration du mariage, on a dit dans la sunna, le professeur Anselme avait l'habitude de le faire 3 jours après. Dans certains cas, le lendemain de la nuit des noces. Celui qui peut faire la sunna, qu'il la fasse. Et celui qui se trouve un petit peu fortement attaché à ses coutumes pour ne pas choquer les parents, etc., etc., et qui veut faire comme les parents veulent faire, c'est-à-dire le jour même ou 2 jours avant, etc., la nuit des noces, eh bien, il n'y a pas de problème. Tant que ce point-là est rempli, puisque le professeur Sam a dit qu'il faut absolument que le mariage soit accompagné d'un repas, même s'il est fait le jour même, le jour qui précède la nuit de noces, il n'y a aucun problème. Il n'y a rien qui l'interdit. Même si le mieux, c'est d'appliquer la sunna. Donc cette coutume-là, il n'y a pas de problème, elle est permise. Ensuite, il faut savoir, et ça concerne ceux qui veulent se marier, ou ceux qui sont invités à un mariage. Tout ce qui va suivre est très important, parce que tout ce qui va suivre concerne ceux qui vont se marier, comment ils vont l'organiser, et il concerne celui qui est invité à un mariage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était invité à un repas de mariage, lorsqu'il voyait qu'il y avait du mal dans ce repas, lorsqu'il y avait du haram, de l'illicite, il n'y allait pas. Dans certains cas, il n'y allait pas. Dans d'autres cas, il y allait, mais pas pour y rester, pour dire ce que vous faites, c'est interdit. Et quand il allait leur dire ce que vous êtes en train de faire, c'est interdit dans l'islam. S'ils arrêtaient, c'est interdit. Il assistait. S'ils n'arrêtaient pas, c'est interdit. Il rentrait chez lui. Aujourd'hui, quand il y a certains interdits dans les mariages, dans la célébration de mariage, on entend certains frères qui disent « Moi, j'y vais, mais c'est pour dire que c'est haram, etc. etc. » Donc il va, alors certes, il dit quelques mots comme ça entre, à ses voisins, il dit « Ouais, c'est haram, mais il reste là. » Et il participe. Non. Si tu dis que c'est haram et que le haram continue, tu dois absolument quitter cet endroit. Parce que cet endroit, et ce qui s'y passe, met en colère Allah Azza wa Jal. Et donc Allah Azza wa Jal est en colère contre ceux qui l'organisent et ceux qui y contribuent de manière, d'une manière ou d'une autre. Les compagnons et les tabi'i avaient l'habitude de ne pas assister aux célébrations où il y avait de la musique et des danses. Les compagnons n'y assistaient pas. Ils n'y allaient pas. Les chants sont autorisés. On va revenir sur les chants, comment ils sont autorisés. Voilà, quand c'est abusé, quand on ramène un groupe, ou même si on ne ramène pas un groupe et qu'il y a de la musique, et il y a toutes sortes de musiques et des chants qui poussent les gens à commettre le haram. Ce n'est pas des chants qui donnent des bonnes paroles, qui disent que du bien. Ce sont des chants qui poussent les gens à commettre le haram, comme le raï ou comme les chansons qui sont faites exprès pour les mariages. Toutes ces choses-là sont interdites. Al-Awza'i, qui était un grand tabi'i, disait « Nous n'assistons pas aux mariages dans lesquels il y a de la musique et de la danse. » D'ailleurs, on voit que dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jal l'a toujours préservé. Même lorsqu'il n'était pas prophète, lorsqu'il n'avait pas encore eu la révélation, Allah azza wa jal a toujours préservé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ces choses-là et de ces endroits-là et de ces organisations-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam raconte que lorsqu'il était adolescent et qu'il était berger pour quelqu'un, il lui prenait ses troupeaux et il les amenait pendant plusieurs jours à un endroit avec d'autres collègues bergers pour les faire pâturer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam raconte qu'une soirée, il a entendu dans un village au loin, il a entendu de la musique. Et il a dit à son ami berger, il a dit, j'entends de la musique, j'entends qu'il y a une teuf, comme on dirait aujourd'hui. Ça bouge. J'ai jamais, le professeur Sam était un adolescent, j'ai jamais assisté à ça, j'ai jamais vu comment c'est. Donc ne serait-ce que par curiosité, j'aimerais aller voir ce que c'est. Est-ce que tu peux garder mon troupeau? Est-ce que tu peux garder mon troupeau le temps que j'aille voir? Le temps que j'aille assister, ne serait-ce que quelques instants? Son ami lui a dit oui. Et il s'est mis en route vers ce village. Et Allah Azza wa Jal lui a donné une grosse fatigue au prophète Hassan. Il était tellement fatigué qu'il s'est dit, avant de terminer mon chemin, je vais m'arrêter un petit peu pour me reposer. Subhanallah, comment je suis fatigué. Il s'est arrêté et Allah Azza wa Jal l'a fait endormir. Il s'est endormi jusqu'au lendemain matin. C'est la chaleur du soleil du matin qui l'a réveillé. Il est revenu auprès de son ami. Son ami lui a dit, alors, comment ça s'est passé? Comment c'était? Il lui a dit, je sais pas ce qui m'est arrivé, sur la route j'ai été pris d'une grosse fatigue, j'ai pas pu terminer le chemin, je sais pas comment ça s'est passé. Une deuxième fois, encore une fois, lors de son adolescence, la même chose lui est arrivée. Et le professeur Sam dit, Allah Azza wa Jal, donc le professeur Sam raconte ce récit après sa révélation, il le raconte aux compagnons, Allah Azza wa Jal m'a toujours préservé. Il raconte ses histoires en concluant quoi? Allah Azza wa Jal m'a toujours préservé. Cela veut dire que c'est quelque chose que le professeur sallam n'aime pas. C'est quelque chose qu'Allah Azza wa Jal n'aime pas. C'est quelque chose qui est interdit. Le fait non seulement de l'organiser, mais aussi d'y assister. Les chants qui sont autorisés, le professeur sallam une fois est parti à un mariage, et c'était un mariage, on va dire, silencieux. Le professeur sallam a dit à Aïcha radiallahu anha, les jeunes filles peuvent dire des chants, elles peuvent frapper dans les tambourins et dire des chants. Et le professeur Sam, Aïcha radiallahu anha ne savait pas ce qu'elle devait dire, elle lui a demandé. Et le professeur Sam lui a enseigné un poème, il lui a dit, dis à ces jeunes filles de dire ce poème-là. Et les jeunes filles disaient ce poème-là, Al-Muhim, ce sont des chants qui ne disent rien de mal. Et on peut utiliser les tambourins. Voilà ce qui est autorisé dans les mariages, du côté femme bien entendu. En parlant du côté femme, il y a certaines choses qui sont faites dans les coutumes, qui sont pratiquées, la mixité. Aujourd'hui, les membres de notre communauté, malheureusement, ont innové dans la mixité. On a plusieurs menus aujourd'hui dans les mariages. Je ne parle pas des menus dans la nourriture, je parle des menus mixité. On vous envoie des cartes, des faire-part, ou alors on vous invite oralement et on vous prévient. Alors il y a la fête à la mosquée, il y a le repas à la mosquée, il y a chez moi tel jour, et il y a tel jour à la salle. Alors le jour à la salle, attention, de telle heure à telle heure, c'est pas mélangé, et à partir de telle heure, je te préviens, pour pas dire que je t'ai pas prévenu, c'est mélangé. Ajibian. Les gens maintenant en plus, ils ont l'audace de prévenir. Et ça commence à devenir quelque chose de tout à fait banal. Et au contraire, les gens ils se disent, bah alhamdoulilah, lui c'est bien, au moins il a fait un moment pour ceux qui sont dans le din, et un autre, bah je vous laisse terminer la phrase, pour ceux qui ne sont pas bons. Subhanallah. Et ce qui se passe, non seulement la mixité est interdite, mais ce qu'on nous raconte et ce qu'on nous rapporte comme information de choses qui se passent dans les mariages qui sont mélangés, yani, j'ai envie d'abuser, de dire que même le diable n'ose même pas participer à ces choses. Là, c'est plus les anciens, c'est plus les parents qui se mélangent. Il y a certains parents qui ont l'habitude de se mélanger, mais au moins, même quand ils se mélangent, même s'ils pratiquent cet interdit, ils gardent une certaine barrière entre eux. Ils gardent une certaine gêne entre eux. Aujourd'hui, les jeunes se mélangent dans les mariages. Donc, bien entendu, les filles qui sont à ce mariage-là, elles n'ont pas le hijab. Elles enlèvent le hijab dans la salle, pour celles qui le mettent. Si celles qui participent à ces mariages où la mixité est pratiquée, si elles le mettent, le hijab. Elles n'ont pas de hijab, je ne vous parle pas des décolletés, et je ne vous parle pas du reste dans la façon vestimentaire. Et il y a un mélange, et tout le monde danse ensemble, au-dessus des tables, en dessous des tables, ajib yani, sans aucune honte. Subhanallah al-Azim. Et le pire et le plus désolant, c'est que la personne, il l'a organisé, il t'a prévenu. Il te dit, de telle heure à telle heure, voilà comment ça va se passer. Et pour lui, c'est ça le plus intéressant. C'est ce qui met en colère Allah Azza wa Jal qui est le plus intéressant. Et comme on a dit tout à l'heure, le mariage est un acte d'adoration. Et le mariage, c'est quelque chose qui va durer toute la vie, normalement. Mais s'il commence comme ça, on ne donne pas cher de ce mariage-là quelques mois plus tard. Et vous, il suffit de regarder les histoires des jeunes qui se marient aujourd'hui. Sur tous ces mariages qui sont faits de cette manière-là, où les deux jeunes sortent ensemble avant le mariage et ils se voient de manière isolée, sans aucun problème, et ils ont probablement été loin dans leur relation. Et ils disent maintenant on va faire le halal. Pourquoi ils disent maintenant on va faire le halal? Ah, parce qu'avant ils étaient dans le haram. Quelqu'un qui se marie religieusement, il ne dit pas je vais faire le halal. Mais cette expression elle est venue pourquoi? Parce qu'il dit maintenant je vais faire le halal. Parce qu'avant il n'était pas dans le halal. Au moins il l'admet. Comment ce mariage-là, comment voulez-vous qu'Allah Azza wa Jal mette la baraka dans ce mariage et il donne son accord à cette union s'il est fait de cette manière? Non seulement il a commencé avant l'union dans le haram, dans la colère d'Allah Azza wa Jal, et si au moins Taïb Asidi, le jeune, il va dire maintenant on va faire dans le halal, ça ne va pas et tout ça. Mais même cette expression qu'il a inventée, on va faire dans le halal maintenant, elle n'est même pas vraie puisqu'il continue dans le haram. Il continue à pratiquer la mixité dans son mariage. Donc c'est toujours pas dans le halal. Au contraire, son mariage, la célébration de son mariage devrait être normalement une manière de se repentir. Au contraire, c'est une manière de s'enfoncer dans le haram. Donc ça, c'est interdit. Ça fait partie des coutumes qui sont interdites. Et laissez-moi vous dire que ce sont des coutumes qu'on n'a pas ramenées de nos parents. Nos parents n'avaient pas l'habitude dans leur pays de se marier de cette manière-là. Même si dans certaines régions de nos pays d'origine, il y avait la mixité qui était pratiquée, c'était pas comme ça, subhanallah. Aujourd'hui, il y a non seulement la mixité, donc c'est interdit la mixité, et en plus, il y a toutes ces choses-là qui sont pratiquées dans la mixité. Il y a d'autres sortes de mixité plus ou moins graves. Le fait qu'on dit non, nous on sépare les hommes et les femmes, alhamdoulilah, il n'y a pas de ça chez nous. Ou alors le mari, il vient s'asseoir sur le trône, dans la salle, le jour du mariage, il vient s'asseoir au milieu des femmes, yarni. Et voilà, yarni, donc les femmes parmi elles, il y en a qui ont le hijab, il y en a qui n'ont pas le hijab. Donc lui, il est dans le din, yarni, il considère qu'il ne peut pas se mélanger aux femmes, mais le jour de son mariage, apparemment, il y a une exception. Il a le droit de rentrer au milieu des femmes. Donc bien entendu, il y a des défilés de mode devant lui. Les femmes, elles passent, elles viennent et elles vont. Il y en a qui dansent devant lui. De temps en temps, on le pousse aussi un petit peu pour qu'il se lève avec les femmes et tout ça, qu'il danse aussi un petit peu. Yani, subhanallah. Yani, ça aussi, c'est vraiment de l'aberration. Ah non, nous, il n'y a pas de ça chez nous. Nous, alhamdoulilah, c'est séparé. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Le mari, lui, c'est autre chose. Lui. Mahva. Prouve. Yani, subhanallah. Lui aussi, il commence mal son mariage. Ensuite, les choses qui sont pratiquées dans le mariage parmi nos coutumes et qui sont également interdites. Toutes les coutumes qui tendent à ressembler aux non-musulmans. Et ici, j'aimerais parler en particulier de, je ne sais pas comment ça s'appelle, là, on soulève la mariée et le mari. Là. Comment ça s'appelle ? La maria. On soulève le mari sur quelque chose avec la mariée, là. Allez, vite. Agis bien. Et aussi, ici, il y a une sorte de mixité. Attention, ceux qui vont porter, ce n'est pas des femmes qui vont le porter, ceux qui vont porter, ce sont des hommes, eux aussi, ils ont le droit. Dans les cas où nous, on sépare, nous, on n'est pas des gens comme ça, il y en a, mais attention, on va choisir certains, les amis du marié ou ses frères, etc. Toi, tu rentres, c'est pour porter la mariée. Ça, c'est autorisé. Il y en a un hadith qui est sorti il n'y a pas longtemps, Zid, c'est tout madkhoul. Ça, c'est une coutume. Est-ce qu'elle est permise ou pas, le fait de... Donc, premièrement, il y a la mixité, ça, c'est interdit. Mais s'il n'y avait pas la mixité, c'est une coutume qu'on a pris de chez les juifs. Cette coutume de prendre le marié et la mariée et de les soulever sur une chaise ou sur quelque chose, c'est une coutume qu'on a pris de chez les juifs. C'est une coutume juive. C'est les juifs qui avaient l'habitude de faire ça et ils nous l'ont injecté au Maghreb, en particulier au Maroc. Puisqu'il y a beaucoup de juifs au Maroc. Et donc ils ont leur façon d'organiser leur mariage, et les Marocains en particulier, même si maintenant ça s'est répandu dans tout le Maghreb, les Marocains l'ont pris des juifs marocains. Et il est interdit de ressembler aux non-musulmans dans nos célébrations, dans notre façon de croire, etc. etc. Donc ces coutumes-là, je n'excelle pas, il y en a peut-être d'autres qui tendent à ressembler aux non-musulmans, ces coutumes-là, il faut les éviter. Ensuite, parmi nos coutumes, vient le tour de la caméra et de l'appareil photo. Est-il autorisé de filmer le mariage et de prendre des photos pendant le mariage? Il est autorisé, bien entendu, de garder un souvenir de moments comme ça. Donc tout le monde a envie de garder un souvenir. Tout le monde a envie de filmer son mariage. Tout le monde a envie de prendre des photos dans son mariage. Walakin, qu'il se débrouille pour prendre des photos et pour filmer uniquement lui et son épouse. Donc normalement ça ne peut pas être dans la salle parce que lui, le mari, il ne rentre pas dans la salle. Et il ne filme pas de manière hasardeuse les femmes des gens. Il ne filme pas les femmes qui ont l'habitude de mettre le hijab. Et dans cet endroit-là qui est avec des femmes, la femme a enlevé son hijab. Il ne filme pas les jeunes femmes. Parce qu'après, qu'est-ce qu'il va voir la cassette? Qu'est-ce qu'il va voir ces photos? Et les frères du marié, les frères de la mariée. La mariée, elle aime bien donner à tout le monde. Elle envoie, elle fait des doubles, des photos, elle envoie à tout le monde. Et tout le monde va connaître la femme d'un tel. C'est qui? Ah, le marat flan. Ajib. Subhanallah. Et donc, on peut filmer pour garder des souvenirs, mais à condition que c'est fait dans ce cadre-là. Dans un cadre de respect des règles. On ne filme pas les femmes des gens. On filme pour garder un souvenir, juste la famille entre nous, quand les invités ne sont pas encore arrivés. Et ça doit absolument être préservé, ces cassettes-là et ces photos-là. Taïm. Ah, vient le cortège. Le cortège, c'est une chose qui n'existait pas dans l'islam. Bien sûr, il faut aller chercher la mariée, elle ne va pas rester dans la salle ou chez les parents. Il faut aller la chercher. Voilà que le musulman doit se débrouiller pour aller la chercher de manière respectueuse. D'abord pour les gens qui y vivent autour. Nous, on fait à chaque fois du cinéma. Quand on va faire un cortège, on va prendre... Et la ville d'Alua, malheureusement, elle est spécialiste dans les cortèges qui font du cinéma. Yani là, toutes les formes d'interdits sont pratiquées dans le cortège. La mixité, à l'intérieur des voitures. Tout le monde, allez, il y a de la place dans ta voiture, ouais, là, elle prend combien de place là, ta voiture 5, Marlis, je n'en ai 10. Tu vois par le toit ouvrant, il y a une fille qui sort sa tête avec son char comme ça dans le vent, par les carreaux, par... Ajib, yani. Ça se rentre dedans les voitures, yani, subhanallah, yani. Bien sûr, on en profite aussi dans les voitures parce que par hasard, la fille n'avait pas trouvé de place avec sa famille, elle est montée dans cette voiture, il n'y a pas de problème, allez, on échange les numéros, on y va, les mails, zid. Ça, c'est formellement interdit par l'islam. Yani, subhanallah, quelqu'un qui est raisonnable, qui est doué d'un minimum de raison. Allah Azza wa Jal, quand il nous parle dans le Coran, il dit, oh, vous qui êtes doué de raison. Il nous pose à chaque fois cette question, est-ce que vous ne réfléchissez pas? Est-ce que vous ne raisonnez pas? Est-ce que vous ne méditez pas? Mettez-vous à un coin de rue et regardez-moi ce cortège. Et ce qui s'y passe. Et raisonnez pendant une minute et posez-vous une seule question. J'allais dire une question universelle. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Mais subhanallah. Qu'est-ce que ça vous ramène? À part les doigts des gens pieux qui sont dégoûtés de cette image-là et qui font des doigts contre vous et qui sont probablement exaucés. Exaucé par Allah Azza wa Jal. La mauvaise image que vous donnez aux non-musulmans, c'est un mariage musulman. Voilà, c'est un mariage musulman. C'est ça qu'ils vont avoir dans leur tête. Ils ne savent pas d'où vous venez, ils ne savent pas que vous venez de la salle, ils sortent de la mosquée, c'est leur mariage, c'est comme ça. Yani, subhanallah. Donc bien entendu, toutes ces choses-là sont interdites. Inch'Allah, je vais m'arrêter là. Et avant de m'arrêter, j'aimerais juste préciser quelque chose qui n'a pas beaucoup à voir avec ce que je viens de dire. Le haqqa, c'est très difficile de préparer un sujet comme ça quand on sait ce qui se passe. C'est difficile de venir à la mosquée et de faire une intervention. C'est difficile de venir à la mosquée et d'écouter une intervention, en particulier sur le mariage, quand on sort de chez soi et qu'on entend dire à la télé qu'une mosquée à Gaza vient d'être bombardée alors que les gens étaient en pleine prière et que ça a fait plus d'une dizaine de morts. Wallahi ikhwani, c'est difficile. Et ça doit jamais s'éloigner de nos esprits. Le minimum qu'on puisse faire, c'est qu'on ait cette question-là dans notre cœur. Si on ne peut rien faire d'autre, ni par les gestes, ni par la parole, c'est que la question palestinienne soit dans notre cœur. C'est qu'on soit dégoûté de ce qui se passe. C'est qu'on fasse des doigts pour qu'Allah Azza wa Jal donne la victoire à notre communauté en Palestine. Quand on sait que les sionistes attendent le moment de la prière, et ils savent que cette mosquée va être remplie pour la bombarder, avec des tonnes de bombes, là aujourd'hui, il y a une heure et demie, deux heures, Wallahi ya ikhwani, c'est difficile, on a le pas lourd de venir à la mosquée. Et on doit se rappeler que si on arrive à venir ici, c'est d'abord parce qu'Allah Azza wa Jal nous l'a permis, mais c'est aussi par la cause de gens qui tombent en martyrs, qui ont défendu l'islam depuis l'arrivée du prophète jusqu'à nos jours. S'il n'y avait pas des compagnons, s'il n'y avait pas des moujahidines en tout temps qui défendraient cette religion, on ne serait pas là pour venir à la mosquée. Wallahi, mettez-vous à la place de ces gens-là, qui savent que depuis une semaine, les mosquées sont bombardées. Et ils continuent d'aller remplir leurs mosquées. Ils continuent d'aller à la mosquée. Et nous, lorsqu'on fait une conférence ou lorsqu'on veut essayer de réunir les jeunes, ou etc., on a du mal. Venez à la mosquée, il faut leur parler, insister, implorer pour que les gens viennent à la mosquée. On a du mal à les faire venir. Ces gens-là n'ont pas de quoi manger. Ils n'ont plus d'électricité. Là où ils vont, ils sont menacés par les bombardements, mais ils savent qu'encore plus, les mosquées sont encore plus menacées que d'autres endroits, et malgré cela, ils ont la facilité d'aller à la mosquée, ils n'ont pas peur d'aller à la mosquée. Si on ne tire pas des leçons de l'acte de ces gens-là, on ne tirera jamais. Barakallahu fikum pour votre attention. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.